pour cette fin d'année 2012 et pour qu'ensemble nous trouvions plein d'énergie positive et d'espérance pour l'année nouvelle, j'ai choisi pour vous comme texte du jour le début de la deuxième lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens. Quand l'apôtre Paul écrit cette lettre, il connaît alors bien des difficultés, mais il ne manque pas de ressort. Il ne manque pas de cette incroyable puissance de résurrection, de réconfort que l'on appelle familièrement Dieu. Il ne manque pas non plus de cette puissante force qu'est l'amour qui le lie à ses amis, amour qui le motive pour être, comme il le dit dans ce passage, collaborateur de leur joie avec Dieu. Alors voilà le début de cette deuxième lettre aux Corinthiens qui est une des plus personnelles de l'apôtre Paul. Paul, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le Père compatissant, le Dieu de toute consolation, lui qui nous console de toutes nos afflictions, afin que par la consolation que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu, nous puissions à notre tour consoler ceux qui se trouvent dans toutes sortes d'afflictions en ce monde. Car de même que les souffrances de Christ abondent pour nous, de même aussi notre consolation abonde à un point incroyable par Jésus-Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui vous rend capable de supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est vraiment ferme, car nous le savons, comme vous avez part aux souffrances, vous avez aussi part à la consolation. Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet des terribles épreuves qui nous sont survenues en Asie. Nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces mêmes, de telle sorte que nous désespérions même de la vie. Mais nous, en nous-mêmes, nous avions accepté notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance seulement en nous, mais en Dieu, qui ressuscite les morts. Et c'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Oui, nous espérons qu'il nous délivrera encore. Vous-même aussi, nous assistons par la prière, et ainsi plusieurs personnes auront obtenu pour nous cette grâce, et plusieurs en rendront grâce à notre sujet. Car notre sujet de gloire, c'est le témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec une sainteté et une sincérité qui viennent de Dieu. Non pas avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez et reconnaissez. Et j'espère que vous reconnaîtrez jusqu'à la fin, comme vous avez déjà reconnu en partie, que nous sommes votre sujet de gloire et vous le nôtre, au jour de notre Seigneur Jésus. C'est dans cette persuasion que je voulais aller auparavant vers vous, afin que vous ayez une seconde grâce. Et je comptais, oui, de chez vous, passer en Macédoine, puis revenir de la Macédoine chez vous et me faire accompagner ensuite par vous en Judée. Et quand j'ai fait ce projet, est-ce que j'ai donc fait preuve de légèreté? Ou bien est-ce que mes résolutions sont celles des résolutions de la chair? Ou bien de sorte qu'il y ait en moi le oui, oui et le non, non? Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, le Christ Jésus, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain, par Timothée, n'a pas été oui et non, mais en lui, il n'y a que oui. Toutes les promesses de Dieu sont ce oui en lui. C'est donc aussi par lui que nous disons à Dieu l'amen pour sa gloire. Celui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a donné l'onction, c'est Dieu. Il nous a aussi marqués de son sceau et il a mis dans nos cœurs les prémices de l'Esprit. Or, j'en prends Dieu à témoin sur mon âme, c'est pour vous ménager que je ne suis pas allé à Corinthe, non que nous dominions sur votre foi, mais nous voulons collaborer à votre joie, puisque vous êtes ferme dans la foi. J'ai donc jugé bon en moi-même de changer mes projets et de ne pas retourner chez vous dans la tristesse. Car si moi je vous attriste, qui peut me réjouir alors, sinon celui qui est attristé par moi ? Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et pour prendre le temps de laisser résonner ce témoignage de l'apôtre Paul en nous-mêmes, je vous propose de chanter au psaume 72, toujours dans le psautier français, les trois premières strophes de ce psaume 72, « Revêt Seigneur de ta justice, le prince de la paix ». Ô notre Dieu, merci pour cette vie que tu nous donnes, pour le pain dont notre corps a besoin et que nous pouvons manger, pour ces frères et sœurs que nous avons pour nous aimer et pour que nous les aimions. Merci pour ton esprit qui nous permet de trouver une parole de toi dans nos Écritures, une parole qui nous apprend combien nous sommes importants à tes yeux, une parole qui fait de nous ton enfant. Il est probable que l'apôtre Paul reprenne ici une parole de Jésus, ce que Paul fait en fait très rarement dans ses lettres, uniquement quand c'est essentiel, et nous verrons dans quelques instants une raison possible pour cela. Cette parole de Jésus est effectivement essentielle ici pour l'apôtre Paul, dans cette lettre qui est peut-être une des plus personnelles, des plus difficiles de ses lettres, écrite dans des larmes de joie et aussi de douleur. Paul avait dû entendre raconter que Jésus avait dit dans le sermon sur la montagne « Que votre parole soit oui, oui, non, non, ce qu'on y ajoute vient du mal ». Ce « oui, oui, non, non » de Jésus est suffisamment étrange et rigolo pour qu'on ne l'oublie pas. Mais que veut dire Jésus avec cette phrase curieuse? Certains la lisent comme une petite leçon de morale que donnerait Jésus. Alors ce n'est pas tellement le genre du bonhomme, mais il pourrait y avoir, oui, une exception. Jésus nous dirait alors que ce n'est pas bien de mentir et de ne pas tenir parole. Bien sûr qu'il vaut mieux dire la vérité que le mensonge. Christ n'est pas venu pour nous apprendre ça quand même. C'est ce qu'on apprend aux enfants, et nous savons qu'il faut plus tard apprendre à affiner le modèle, car il n'est évidemment qu'à peu près juste. Par exemple, quand des familles de l'oratoire, entre 42 et 44 ici, recueillaient des enfants juifs parmi leurs propres enfants, si des soldats allemands ou des policiers français étaient venus en demandant à un oratorien s'il savait quelque chose, le mensonge aurait évidemment été le comportement juste sans avoir à y réfléchir 1000 ans. D'ailleurs, la loi de Moïse n'interdit pas le mensonge. Vous l'avez entendu tout à l'heure dans le petit résumé que je vous ai donné des 10 paroles, du décalogue. La loi de Moïse suggère de ne pas dire de faux témoignages contre son prochain. C'est déjà plus fin qu'une morale de base condamnant simplement le mensonge, car cela nous suggère, nous appelle à mesurer les effets de nos paroles en fonction, voilà, de ce que ça va produire chez notre prochain. Et évidemment, donc, de ne pas faire du mal à notre prochain par de faux témoignages. Mais tant qu'à faire, il faudrait ajouter aussi qu'il y a également des paroles vraies qui peuvent commettre des désastres. Par exemple, il n'est pas forcément utile de répéter chaque jour à une petite fille pas très jolie qu'elle est vraiment trop moche. C'est donc une bonne idée, oui, de dire la vérité, et c'est une bonne idée aussi, bien sûr, de tenir parole. Et là encore, Jésus enfoncerait une porte ouverte avec cette petite leçon de morale. Attention, il faut bien tenir parole. Et dans la Bible, d'ailleurs, l'histoire horrible de Jephté nous aide à réfléchir sur ce sujet avec une certaine finesse, puisqu'en se cramponnant à une parole donnée un peu inconsidérément, Jephté en vient à tuer sa propre fille. Et oui, bien entendu, évidemment, il est bon de dire le plus possible la vérité, mais avec souplesse et intelligence. Bien sûr, il est bon de ne pas jurer et promettre n'importe quoi, n'importe comment, mais il est bon de savoir prendre des résolutions, choisir des attachements, y être fidèle, mais avec discernement. C'est d'ailleurs finalement ce que fait l'apôtre Paul ici, parce qu'il a pris une résolution et puis finalement il a dû changer. Effectivement, la réalité de notre monde est complexe, mêlant le oui et le non d'une manière mouvante. Dans notre vie, il y a la santé et la maladie, il y a des beaux temps et des tempêtes, il y a l'abondance et des revers des fortunes, le oui d'un moment étant non à un autre moment ou pour une autre personne. Alors que veut dire Jésus quand il nous dit que votre parole, votre logos, soit oui, oui, non, non? Eh bien, puisqu'il y a du oui et du non mêlés dans ce monde, il est bon de dire oui au oui et de dire non au non sans se tromper et faire l'inverse, bien sûr, et être ainsi avec Dieu, créateur de vie. Et donc, nous dirons aussi non à toute forme de négativité en ce monde, et nous serons alors, comme le dit Paul, un collaborateur de joie pour les autres avec Dieu. Nous serons source de consolation, éliminant les afflictions et ce qui est mauvais. Et donc la première chose est de savoir discerner entre le oui et le non, entre le positif et le négatif dans la réalité du monde, et puis ensuite de chercher comment élaborer notre propre parole, notre propre geste, notre oui au oui et notre non au non. Alors Paul avait promis de passer par Corinthe, il a dû changer ses plans. Et il est accusé ici d'avoir décidé à la légère, sans réfléchir. Alors c'est une première remarque intéressante dans ce dossier. On a le droit de ne pas être croyant, ni pratiquant particulièrement, mais il est quand même au minimum bon de se poser des questions, de philosopher un minimum pour ne pas décider à la légère. Paul est ensuite accusé de s'être décidé selon la chair et non selon l'Esprit de Dieu. Alors cela pose question, car notre chair n'est pas une chose mauvaise dans la Bible, bien sûr. La preuve, c'est qu'en Christ, la parole de Dieu a été faite chair. Et puis, toute la Bible nous dit que notre chair et sa vie biologique, sa vie psychologique, est une bénédiction de Dieu, une bonne chose. Et Paul ajoute que notre monde, est un monde si beau qu'en voyant ses merveilles, et nous sommes une merveille, notre corps est une merveille, notre intelligence, notre capacité à penser est une merveille. En voyant ces merveilles, nous pouvons avoir une idée des perfections invisibles de Dieu, nous dit Paul. Alors oui, il est mauvais de ne décider que par notre seule chair, mais nous voyons la réalité de ce monde par notre chair, nos yeux, notre intelligence, et tout cela est une merveille. Nous voyons une réalité où sont mêlés, oui, le positif et le négatif, le beau et le bon, mais aussi du chaos et du manque, de la force et de la faiblesse, de la croissance et de l'usure. L'erreur serait de ne voir que le positif ou de ne voir que le négatif dans ce monde. Alors c'est parfois pour manipuler des foules que le monde nous est présenté comme tout négatif, avant de nous présenter ensuite l'idée que l'on veut nous vendre comme seule positive. Alors Dieu est créateur dans le monde, dans ce monde qu'il aime, par sa parole, nous dit la Bible. Dieu dit, du verbe hébreu « amar », que la lumière soit et la lumière fut instantanément. Cette parole « amar » de Dieu est puissante, elle est sans délai, sans écart entre ce qu'il dit et ce qui existe alors. Dans un sens, il y a de l'efficacité dans cette parole, mais il y a aussi une violence, une positivité radicale. Il n'y a que du oui, que du bon, que du beau, que de la perfection dans cette parole. Alors visiblement, la création du monde, selon cette parole, est encore en cours de développement, car oui, il reste du chaos dans le monde. Mais c'est ce que dit aussi la Bible dans bien des endroits, la création est encore en Genèse, en cours de développement. Nous pouvons donc regarder le monde tel qu'il est pour y discerner ce qui est de l'ordre de la vie, du bon et du beau, pour lui dire oui, et voir ce qui reste de chaos, de vide et d'absurde dans ce monde, dans la nature et en nous-mêmes, pour lui dire non. Il y a là une vérité à trouver et à dire, un vrai oui et un vrai non à prononcer. Ce monde est plein de merveilles, oui. Ne nous privons pas de la joie qu'il y a à admirer et à chanter Dieu pour l'en remercier. À nous de mettre en lumière ces merveilles, de nous saisir des moindres progrès qu'il peut y avoir, des moindres consolations, et d'y nourrir notre désir d'être avec Dieu, des collaborateurs de la joie en ce monde pour ceux qui nous sont confiés. Cette parole qui dit et qui crée la bonté du monde, cette parole amare, n'est pas la seule. Il y a une seconde parole de Dieu dans la Bible, c'est celle, par exemple, de la révélation de Moïse dans le Décalogue. Cette parole s'exprime avec un autre verbe hébreu, le verbe « dabar ». Cette parole ne s'impose pas comme la première, mais elle s'adresse à un homme libre, libre d'écouter ou non cette parole, libre de la recevoir ou non, de la comprendre ou non, libre de discuter, de dialoguer, de négocier. Cette parole est souvent au futur comme une promesse de Dieu. Elle est parfois à l'impératif comme un appel, comme une vocation. Cette parole, elle donne du sens, elle donne de l'idéal, elle donne un projet possible pour Dieu et pour nous. Et puis Dieu parfois se change son projet, parfois il se repent dans la Bible des projets qui ont échoué. De cette parole-là, nous pouvons aussi tenir compte pour saisir ce qui est de l'ordre du positif et du négatif en ce monde, en relation avec ce que nous voyons, mais aussi avec l'idéal qui nous est suggéré par Dieu. idéal que nous pouvons aussi lire dans la Bible. Face à cette parole d'Abar, Christ n'a été que oui à Dieu, comme le dit Paul. L'Évangile nous montre bien que l'idée de répondre à Dieu non ou peut-être, voyons voir, a traversé l'idée de Jésus. Et que son oui lui prend du temps, 40 jours, puis régulièrement une nuit de solitude et de prière, par-ci, par-là. Ce oui peut lui venir après la méditation de versets bibliques, après des combats intérieurs et parfois après des larmes, mais il n'y eut en lui, le Christ, que du oui au dabar de Dieu. Il a trouvé et reçu la force de dire un oui retentissant à ce qu'il y a de positif dans ce monde et à ce projet de Dieu pour le monde, et de dire un non décisif à ce qui ne va pas. Et comme nous tous, comme Paul, il a subi les noms de ce monde d'une façon tout injuste et cruelle, ce que nous ne pouvons accepter pour personne en ce monde, mais qui arrive trop souvent, chaque jour, il est vrai. Christ a été un oui au dabar de Dieu, il a même été l'amen de Dieu, l'amen pour Dieu, l'amen à Dieu, c'est-à-dire la réalisation de toutes les promesses de Dieu pour l'humanité et en l'humanité, projet de réaliser un être humain à son image, créateur de bon et de vie. Christ est la preuve que cette parole d'abar de Dieu n'est pas une parole fausse, elle n'est pas une parole à la légère, une parole en l'air, même si elle ne s'applique pas avec cette force de la parole créatrice, mais qu'elle est proposée avec tendresse, avec patience dans le dialogue, d'une manière faible finalement. Pour rendre compte, pour prendre en compte la réalité de ce monde, nous sommes donc en tension avec ces deux regards, avec ces deux paroles, celle qui dit la réalité mitigée de ce monde, ce qui est bon et ce qui est moins bon, et celle qui dit l'espérance, le projet de Dieu pour ce monde. Il y a là, dans ce dialogue, une interprétation du monde dans l'écoute bienveillante mais réaliste du monde, grâce à la révélation de Dieu, grâce à la lecture de la Bible. Ce n'est donc pas seulement selon la chair que l'homme biblique va forger ses décisions, qu'il va décider de ses projets, de ses oui et de ses non dans le monde. Par exemple, quand Adam et Ève remarquent que l'arbre qui est au centre du jardin est délicieux à manger, c'est une observation vraie de la réalité de ce monde. Quand Jésus a faim au point qu'il a envie de bouffer les cailloux du désert, ou qu'il a envie d'utiliser son charisme et son intelligence extraordinaire pour devenir roi du monde, c'est vrai que sa chair, sa biologie, sa psychologie désire cela. Mais la connaissance de Dieu lui montre pour autant que ce n'est pas une bonne décision, qu'il y a d'autres chemins, que ces pistes-là mènent à un non, mènent à la mort. Et donc il faut dire non à ce non. L'observation du monde, notre intelligence et la connaissance de la volonté de Dieu, la sagesse et la philosophie sont des aides utiles pour vivre ce oui-oui, non-non que le Christ nous propose de vivre. Mais en Christ, nous ne sommes plus sous la loi, mais elle n'est qu'une pédagogie nous ouvrant à autre chose. Le Christ est la parole faite chair, nous dit l'Évangile, et cette parole, c'est la parole douce. C'est celle du dialogue et du sens. En effet, cette parole, c'est là le logos qui traduit toujours dans la Bible des Septante le dabar, alors que amar est traduite plutôt par epein que legein. En Christ, nous ne sommes plus des serviteurs de Dieu comme sous la loi de Moïse, mais nous sommes des enfants de Dieu, en fait. Nous sommes, nous dit la Bible, héritiers de Dieu, et même co-héritier, héritier avec le Christ de son royaume. Et cela change notre rapport à la parole, et donc au juste oui et au juste non que nous pouvons avoir dans le monde. Et notre regard est un regard neuf à créer aujourd'hui. Ce n'est plus seulement une interprétation du monde par la Bible, mais nous sommes, appelés à être notre propre interprète du monde par une parole que Dieu nous donne directement au cœur. Nous ne sommes plus seulement des interprètes du monde selon la révélation donnée par Dieu, transmise par les prophètes, par les apôtres, par les théologiens, par les synodes, Mais Jésus nous dit que le projet de Dieu, c'est que nous puissions avoir notre propre logos, notre propre dabar dans le monde. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Et donc la clé n'est plus seulement une simple connaissance du monde, ni une juste connaissance de la volonté de Dieu, mais la clé est un événement, une rencontre, une naissance en fait. C'est ce qu'a vécu Paul à sa façon, mais chacun a sa façon de le vivre, d'une façon brutale ou d'une façon progressive. Et c'est ce dont parle Paul ici finalement, quand il dit que Christ est l'amen de Dieu, la réalisation des promesses de Dieu pour nous, mais en même temps par nous. C'est pourquoi Paul hésite à émailler ses lettres de citations de paroles de Jésus comme si le Christ avait posé une nouvelle loi qu'il nous faudrait apprendre et qui serait une interprétation du monde. Mais le Christ est plus qu'un nouveau Moïse. Il est créateur d'une nouvelle dimension en nous-mêmes. Il fait de nous des enfants de Dieu, des sources d'une parole qui est la nôtre, de notre parole. Paul insiste pour dire que c'est directement du Christ qu'il reçoit la parole dans un événement de foi, de prière, d'illumination intérieure. Et il dit ça pour que nous vivions à notre tour, à notre façon, cette rencontre. C'est de cet événement, nous dit ce texte, qu'il tient sa force, qu'il tient son onction, c'est-à-dire sa vocation, ses missions personnelles en ce monde. C'est de lui qu'il a reçu la marque de l'amour particulier, le sceau de la vie éternelle, de l'amour de Dieu pour chacun de nous en particulier. Et c'est ainsi qu'il reçoit, un peu comme un commencement, l'Esprit créateur de Dieu. Et ainsi, notre propre discernement du oui et du non n'est plus une parole de disciple, mais une parole de prophète, et même plus, une parole d'enfant de Dieu. Et donc, oui, que nous mettions nos tripes, nos dons, notre personnalité à mettre au monde notre propre parole, notre propre regard sur le monde. Une parole qui a spontanément cette bienveillance et cet optimisme de Dieu, qui ne perd rien, jamais, de ce qui est bon en chacun, qui voit, qui espère le formidable et le génial en chacun de nous, et puis dans ce monde, pour l'aimer, pour le mettre en lumière, pour le faire évoluer encore, pour chasser l'absurde, le chaos, le mal. Notre parole sera un projet qui tient compte de la réalité de ce monde, y compris de nos désirs et de nos idées, de nos moyens matériels, bien sûr, travaillant ces premières paroles trop tyranniques de la réalité du monde et de nos désirs par la parole de la Bible et laissant ainsi souffler cet esprit de créativité personnelle que Dieu a mis en nous. Et notre parole ne sera donc jamais un simple non désespéré sur le monde, ni sur notre vie, ni sur une personne en face de nous. Alors oui, nous pourrons peut-être dire une parole dure à donner, dure à donner, dure à recevoir, comme ce non que Paul dit ici aux Corinthiens, « Non, je ne passerai finalement pas par chez vous », mais ce non devra être à condition que la finalité soit alors vraiment le oui, c'est-à-dire la vraie joie pour l'autre. Notre parole, donc, sera souple, discutant avec passion et idéalisme, revenant à la charge comme celle de Dieu qui vient sur notre chemin pour nous rappeler sans cesse, mais aussi une parole souple à l'image de Dieu qui accepte si souvent de changer ses projets pour tenir compte de nos propres choix, pour nous accompagner sur notre chemin que nous avons choisi. Et même, on voit souvent Dieu apprendre de ses échecs passés pour les faire progresser, son cheminement. Notre parole ne sera pas une parole tiède surtout, qui hésite entre le oui et le non, mais ce sera une parole originale, personnelle, que nous avons cherchée, que nous avons creusée, que nous avons inventée, dont nous avons accouché, et pour laquelle nous osons prendre le risque de nous tromper, et qui pour cela veille et prie sans cesse. Le Père que nous avons dans les cieux. Amen.